Info.
Canu Info.
Du mercredi.
Bonsoir. Il n'y a que moi qui dis bonsoir aujourd'hui.
Bonsoir.
Ah, non, quand même,
parce qu'on était encore en train de bosser.
Il est 19h passé de 5 minutes et c'est l'heure du Canu Info.
J'entends rien.
Ce soir, on va parler de... On va parler de quoi ? Eh bien, on aura Baman qui vient nous parler de la situation en Iran. Ensuite, on aura un point sur la situation au Rojava.
Ensuite, on aura le camion info.
Ensuite, on parlera du projet des nouveaux EPR. Donc, les nouveaux, c'est les nouveaux EPR. Aussi pourris que le chantier de Flamanville qui est l'actuel EPR, pas encore en route, mais voilà, qui est l'EPR V1. Et suivez un petit peu, s'il vous plaît, parce que c'est compliqué quand même. Et ensuite, on partira du côté de la Chine avec des émeutes dans la méga usine de Foxconn qui fabrique l'iPhone. Et on va commencer avec une brève dont vous avez certainement entendu parler. Il s'agit de Mediapart qui s'apprêtait à faire de nouvelles révélations dans l'affaire du chantage de la sextape de Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne, qui voulait faire chanter
un de ses conseillers municipaux, un de ses conseillers pas de l'opposition d'ailleurs.
Oui, c'est ça, de son alliance avec un conseiller municipal de l'UDI. Bref. Tout ça pour dire qu'un huissier de justice est venu remettre un acte judiciaire provenant d'un juge saisi par l'avocat de Gaël Perdriau, leur ordonnant de ne pas publier leur enquête sous peine d'une amende de 10 000 euros.
10 000 euros par jour.
Ouais, c'est ça. 10 000 euros par jour, par publication, par bref. Alors bon, on a quand même vraiment, vraiment hâte de connaître les dernières révélations puisqu'elles concernent notamment Laurent Wauquiez. Donc Laurent Wauquiez est plutôt la victime dans cette affaire, mais quand même, on a quand même plutôt envie de savoir ce qu'il en est. Cette censure créa bien évidemment un tollé chez bon nombre de journalistes puisque c'est une procédure quasiment jamais vue. Le soutien est aussi large qu'inattendu. Sur Twitter, par exemple, est apparue cette phrase: oui, Mediapart et ses journalistes m'ont personnellement, douloureusement, blessé. Mais quel est ce pays où règne la censure de la presse? Ce n'est plus la France, ma France, celle de Camus et de Combat, le journal de la résistance qui a fondé mes convictions de liberté. Ce tweet émane du compte personnel d'Isabelle Balkany qui a démenti dans son compte Twitter tout piratage de son compte et qu'elle était bien à l'origine.
Et c'était jeudi dernier, c'était à Saint-Malo. Un homme de 71 ans est amené aux urgences par les pompiers vers 21h. Il est placé sur un brancard dans un couloir en attendant qu'on puisse s'en occuper. 3 heures après, à minuit, c'est enfin son tour, mais c'est trop tard, il est mort. Dans cet hôpital, le personnel est en grève depuis 3 mois pour demander des embauches.
Et donc un point rapide sur la nouvelle réforme du chômage. Donc, on ne sait pas si vous l'avez entendu, le gouvernement a annoncé qu'à partir de maintenant, à partir du mois d'août plutôt, mais si le chômage passe au-dessous de 9%, le temps d'indemnisation des personnes sera réduit de 25%.
Tiens, le chômage est en dessous de 9% actuellement.
Et oui, ça tombe bien, oui, parce que on allait en parler. Mais donc oui, le chômage est en dessous de 9% en ce moment. On avait donc quelques petites remarques à faire. Alors la première, c'est que c'est eux qui ont la main sur le calcul du taux du chômage. Donc par exemple, le chômage en dessous est à 7% en ce moment selon le gouvernement, mais selon d'autres critères, il est au-dessus de ce chiffre de 9%. Mais on suppose bien qu'il va choisir selon ses propres critères, c'est quand même plus pratique. Alors si vous me demandez pourquoi 9%, j'en sais rien, parce que théoriquement, les économistes ont plutôt l'habitude de considérer qu'un plein emploi c'est 5%. parce qu'on considère que c'est normal, qui est ce qu'on appelle un chômage de friction. Donc c'est le temps que je quitte mon emploi et que j'en retrouve un autre, bah, y a toujours un petit délai entre les deux, et donc c'est ça, c'est le chômage de friction. Mais 9%, bon, on sait pas trop. Alors le gouvernement dit que c'est parce que en ce moment il y a beaucoup d'emplois non pourvus. Donc il les estime à 773 000 le nombre d'emplois non pourvus. Il se trouve que en 2012 il y en avait 460 000, mais à l'époque apparemment il n'y avait pas besoin de forcer les gens à travailler parce que bah, c'était, on sait pas, voilà pourquoi. Mais alors là où c'est le plus pervers, c'est que les 7% de chômage qui considère lui-même comme étant le bon chiffre, ça représente 3,1 millions de chômeurs. Soit dans le meilleur des cas, donc si on prenait les chiffres, le meilleur des cas, c'est les chiffres de 2012 qui annonçaient 460 000 emplois vacants, et ben on se retrouverait quand même encore avec à peu près 2,5 millions de chômeurs, ce qui veut dire que bah, on ne sait pas trop ce que le gouvernement attend des gens.
Ouais, c'est qu'il y en a, c'est un peu les experts de la friction, comme certaines personnes dans ce studio.
Il y en a, c'est un peu les experts de la friction, et ils espèrent se débarrasser de nous, mais... Et on passe à l'interview.
Et bah alors du coup voilà, on accueille Bahman, donc iranien, réfugié politique en France, donc t'étais déjà venu il y a un mois.
Oui.
Nous parler un petit peu de la situation en Iran, et du coup bah, on va refaire un point sur la révolution actuelle. Donc, est-ce que tu peux nous dire déjà, est-ce qu'il y a toujours autant de manifestations et de grèves aujourd'hui que le mois dernier, par exemple ?
Bah, il y a plus, mais on est plus de 65 jours de révolte, donc les gens, ils ont plus ou moins organisé, et oui, on a vu, par exemple, des grèves dans plusieurs usines, en même temps qu'aux manifestations dans la rue. Donc ça, c'est une image qu'on va voir dans le jour prochain aussi.
D'accord. Alors moi, j'ai vu aux infos que l'Iran annonçait qu'il avait réussi à enrichir de l'uranium à 60% et qu'il était donc prêt d'obtenir l'arme atomique. Donc est-ce que tu penses que cette annonce, elle a un lien avec la révolution actuelle en Iran ? Est-ce qu'elle est destinée à faire peur aux révolutionnaires, à éviter que les autres pays lui mettent la pression ? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça là-dedans ou...
Bon, il y a deux choses. Stratégie de régime de s'entraîner dans une guerre. Ils voulaient attaquer l'Arabie Saoudite, donc on a eu la révélation de certains journaux plutôt américains. Donc ce plan-là s'est tombé dans l'eau. Mais le régime, il fait le chantage aussi, le deuxième point. Il veut envoyer un message pour les Européens. Ils disent que, voilà, il faut... Par exemple, que vous arrêtez de nous sanctionner, sinon on va attaquer Israël, par exemple. Donc, moi, je pense, personnellement, je pense que c'est un chantage. Même s'ils ont réussi d'aller jusqu'à 60%, ils ne peuvent pas jamais atteindre de bombe atomique.
D'accord. Mais du coup, et tu disais les sanctions. Mais du coup, ouais, c'est ça. Et au niveau de la réaction internationale, est-ce qu'il y a vraiment des pays qui ont pris des sanctions contre l'Iran ? Et si oui, lesquels ? Et est-ce que ça joue sur
non, non, c'est pas vraiment. Il n'y a pas encore la sanction qui peut, par exemple, avoir un effet direct sur le gouvernement iranien. Mais ils sont en train de faire le chantage pour éviter la sanction qui va venir. Et moi, je pense que il y aura les sanctions bientôt parce qu'il y a plusieurs morts et donc. On attend une réaction de pays européens ou le monde entier.
Mais parce que toi, tu penses que le fait qu'il y ait beaucoup de morts en Iran, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous rappeler à peu près à combien de morts on en est aujourd'hui, si tu as une idée ou...
Selon l'information de Amnesty, par exemple, on est autour de 420 personnes qui ont tombé et on est autour de entre 15 et 18 000 prisonniers. Et après, plusieurs blessés qui n'ont pas allé à l'hôpital parce que c'est quand même, il y a le militaire dans l'hôpital. Si tu vas aller à l'hôpital avec un, je ne sais pas, de psychiatrie, donc ils vont t'arrêter. Donc il n'y a pas vraiment le chiffre exact de combien blessés, mais il y a plusieurs. Mais le chiffre de prisonniers, ils ont entre 15 et 18 000 et majorité femmes. Malheureusement.
D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a pas une question de prison qui déborde, ou est-ce qu'ils les mettent, enfin, est-ce que ils les mettent en prison, ils les entassent dans les prisons, ces prisonniers et ces prisonnières?
Bah, ils mettent. On a entendu que, par exemple, dans la prison des femmes, il n'y avait pas place, donc ils mettent tous les femmes dans le couloir et. Et les infos qui viennent de prisonniers de prisons de femmes, les femmes, ils se révoltent dans le prison aussi, et le gouvernement, ils ont commencé de agresser sexuellement des plusieurs filles qu'ils ont prisonniers pour détruire la volonté et de la volonté des prisonniers pour arrêter la révolte dans le prison.
D'accord. Et toi du coup, tu penses que tous ces morts, plus ces révoltes en prison, ces vices sexuels, etc., tu penses qu'à un moment, la communauté internationale, au niveau des gouvernements, va réagir en portant des sanctions plus lourdes contre le gouvernement iranien, et que ça aura un effet positif? Est-ce que tu penses que ça peut arriver?
Moi, je pense pas. Moi, je pense que, parce que si c'était le cas, jusqu'ici, il devrait avoir une réaction. Moi, je pense que les pays occidentaux, ils cherchent pas vraiment un changement de régime en Iran ou un changement révolutionnaire, parce qu'il y a certains codes dans cette révolution qui n'intéressent pas aucun pays qui nous entoure dans la région. Donc, et on voit le calme absolu de pays qu'ils ont, nos voisins. Et non, les pays occidentaux, ils n'ont rien fait. Et je ne pense pas qu'ils vont vraiment faire quelque chose. Le moins de choses, c'était de fermer les ambassades iraniennes en Europe, parce que c'est un endroit que les espions iraniens, ils vont entretenir dans les manifestations. Ils prennent les photos des gens qui manifestent en Europe et ils font le pression sur leur famille qu'ils ont en Iran. Donc, nous, on n'est pas à l'abri de régime, même quand on est en Europe. Non, moi, j'ai eu aucune réaction. J'ai eu beaucoup de déclarations, mais pas une action concrète encore.
D'accord. Donc, effectivement, tu as entendu des gens, parce qu'il y a effectivement régulièrement en France, et du coup, je pense que peut-être en Europe et peut-être même dans le monde entier, là où il y a des exilés iraniens, il y a régulièrement effectivement des manifestations de soutien aux révolutionnaires iraniennes et iraniens. Et du coup, toi, tu as entendu qu'il y a des gens qui ont subi des pressions de la part du gouvernement, alors qu'ils n'étaient pas dans leur propre pays.
Oui, c'est courant. C'est plusieurs personnes même qui... Malheureusement, c'est un effet. Mais là, on est dans un moment où on dit qu'il y a les gens qui meurent devant le bal réel. Et peu importe si vous faites pression sur leur famille. On s'en... c'est pas important, mais ça, c'est... C'est le gouvernement européen qui devrait régler ce problème dans leur propre pays. C'est pourquoi on demande de fermer tous les ambassades en Europe. Parce que c'est une guerre dans plusieurs niveaux. Donc ça, c'est un niveau, ça c'est une fronde de guerre aussi.
Tiens, d'ailleurs, est-ce que tu sais s'il y a une ambassade iranienne à Lyon ou...
À Lyon, non, mais il y en a à Paris. Oui.
Et du coup, j'ai une autre question, parce que donc, tu parlais des attaques à balles réelles de la part des forces répressives. Et on a vu qu'il y a certains analystes qui parlent de la partie kurde de l'Iran, c'est-à-dire de la zone peuplée à majorité kurde de l'Iran, oui, qui est attaquée effectivement à balles réelles et avec des armes même lourdes. Donc qu'est-ce qui se passe là-bas exactement dans la partie kurde de l'Iran?
Les régions Kurdistan iranien, c'est depuis 5-6 jours, on a eu 42 morts et centaines de blessés. Et ces blessés-là ne peuvent pas aller à l'hôpital non plus. Et on sait qu'il n'y a pas de sang dans plusieurs villes, mais ils ne laissent pas que les gens, que les autres hôpitaux d'autres villes envoient le sang pour les blessés. Donc, ils ont mis un état policier là-bas. Ils ont mis l'armée avec les armes lourdes dans les roues. Et ils ont pris les Kurdes pour le cible, parce qu'il y a une stratégie derrière. Le régime, ils disent que voilà, on va attaquer la région Kurdistan et les Kurdes, ils vont avoir une réaction militaire contre nous. Donc, nous, on savent qu'on va on va être dans le rapport de force, on va être plus fort. Mais comme ça, on va calmer le reste du pays en disant que les Kurdes, ils sont séparatistes. Alors que les Kurdes, ils ont dit, nous, dans aucun cas, on ne prend pas l'arme. Et on va continuer d'une manifestation civique, une révolution civique, et sans violence, de côté du peuple. La seule chose, l'arme plus redoutable qui est chez nos compatriotes kurdes, c'est leur sang qui est versé dans la roue. Et pour la liberté qui va venir demain.
D'accord, donc du coup, malgré cette forte répression, ils et elles continuent de manifester, et ça sans armes.
Oui, après, il y a des partis politiques et de coalitions de partis politiques kurdes d'Iran qui ont, dans une communiqué, ils ont demandé de peuple iranien dans toutes les villes en Iran de manifester demain pour soutien du Kurdistan. Et moi, j'ai vu que demain, il y aura des manifestations dans toutes les villes et plusieurs villages pour soutien de nos compatriotes kurdes et pour envoyer ce message au régime que vous ne pouvez pas nous séparer et on est tous unis pour faire la révolution.
D'accord, parce que j'ai entendu aussi que du coup la répression était aussi très très forte dans le Baloutchistan. Donc...
C'est pareil, parce que Baloutchistan se trouve sur le frontière aussi, et le régime, il va aller chercher les gens qui habitent dans les zones frontalières pour dire que, oh, ils sont séparatistes, pour calmer les gens qui habitent dans la région centre. Mais ça ne marche pas. C'est-à-dire que le régime a fait beaucoup de choses, a tué les Baloutches, comme les Kurdes, et non, ils n'ont pas réussi. Et on a entendu des slogans des gens de villes centristes qui disaient que nous, les Kurdes, les Perses, les Baloutches, on est tous unis.
D'accord. Et du coup...
en fait, ils essayent de jouer minorité contre... contre les populations majoritaires, un truc comme ça ?
Oui, le régime, il essaye de jouer ça parce qu'ils ont d'expérience aussi en Syrie et en Irak. Et l'Iran est une participante violente dans la guerre en Syrie et ils pensent qu'il peut mettre le même scénario en Iran, sauf que non, en Iran, ça ne marche pas ce scénario. Et les gens, surtout les partis politiques kurdes, ils ont décidé avec une intelligence et le peuple kurde, ils ont dit que nous on est plus iraniens que les autres et personne ne peut pas nous séparer des gens d'autres villes et on a le même droit quand on révolte pour la liberté que les gens qu'ils ont dans les autres villes. Donc le régime, toutes les stratégies de régime, ils ont tombé dans l'eau.
Et est-ce que tu arrives à évaluer un peu l'adhésion de la population aux révoltes en Iran? Est-ce que majoritairement et très majoritairement les gens soutiennent la révolte en cours ou
Oui, mais après on parle de zones grises qui n'ont pas entré en jeu encore. On va revenir sur les grèves dans les usines. C'est pas encore généralisé. Il y a des grèves par-ci par-là, mais pas encore généralisé. On parle des étudiants, mais j'ai eu plusieurs appels qui demandaient aux étudiants, il faut sortir d'université, faire la manifestation, contestation que dans l'enceinte d'université, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Donc, il faut allier la rue et l'université. Et moi, je sais, par biais de mes amis, que demain, les étudiants, ils vont sortir d'université, leur cortège va entrer dans les rues. Et les travailleurs, ils ont commencé hier au sud du pays, dans le domaine pétrolier. Il y a 3 petites grèves, mais pas généralisées encore. Donc, ce qui manque dans plusieurs villes en Iran, contrairement aux régions kurdes, parce que les Kurdes, ils ont une expérience politique depuis quelques années, ils ont des partis politiques, c'est une région assez politisée. Mais nous, on voit qu'au niveau de l'organisation, dans le centre du pays, on a un problème. C'est pourquoi il y a de demandes des gens de toutes les villes en Iran qui disent on est prêt de donner. De donner le parti kurde qui décide de quel jour on va sortir, comment on va organiser. Donc les Kurdes, avec cette braveur qu'ils ont fait aux régions Kurdistan, ils ont envahi les Kurdes, le corps de tous les Iraniens, et il y a une volonté, une amitié qu'on n'a jamais vue dans l'histoire.
Et est-ce que tu arriverais un peu à nous décrire quelle forme prend la contestation? Est-ce que il y a la rue? Comment ça se passe? Est-ce que c'est des gros cortèges dans la rue? Est-ce que c'est plutôt disséminé? Enfin, comment les gens s'organisent et réagissent?
Au départ, c'était pas grand cortège, pas encore, mais ils ont décidé chacun manifester dans leur propre quartier pour éviter et pour disperser de forces de l'ordre. Là, on a passé cette étape après 2 mois et on a décidé de commencer de quartier, mais aller dans le grand boulevard. Et envahi la ville pour avoir des centaines de personnes dans la rue. Ça, on verra demain si cette stratégie qui a été adoptée par les gens, ça va donner un résultat ou pas, mais on verra demain.
Ouais, donc du coup, d'après ce que tu nous dis, demain, c'est une étape très importante dans la mobilisation. Et du coup, pour voir plus loin au niveau du futur, d'après toi, quels sont les scénarios possibles? Qu'est-ce qui risque de se passer après?
Bon, je veux dire juste demain, c'est à l'appel du Kurdistan iranien. D'accord. Que demain, dans toutes les villes, on va voir les manifestations et vous pouvez voir comment les Iraniens et les Kurdes iraniens, ils ont ensemble. Mais qu'est-ce qui ça va passer après? Moi, je pense que la stratégie de régime, c'était de prendre le temps en pensant que les gens ils vont être fatigués, mais on voit que de l'autre côté, les gens ils ont pas fatigué, ils ont dit que on va libérer notre pays et on va finir avec ce régime. Moi, je suis très optimiste de l'avenir, malgré qu'on pleure tous les jours quand on entend un des camarades tomber, mais je pense que c'est une étape qu'on devrait passer. Et si on arrive de passer ici 2 semaines encore en restant dans la rue, tout va changer et le régime ne peut pas entretenir leurs militaires parce que ça coûte cher aussi pour eux et parce qu'il y a beaucoup de morts de côté des gens et il y a une révolte. Et on a vu une chose intéressante, que la famille qu'ils ont été proches du régime, la famille des martyrs de guerre Iran-Irak, oh, ils ont manifesté aussi en soutien de révolution de peuple en disant que bah, nous, on est musulmans, mais ce régime-là, il tue au nom de nos parents qui sont morts dans la guerre. Mais voilà. Et moi, je pense que chaque portion de société est en train de rejoindre de révolte. Mais le problème, bah, après, ce n'est pas un problème en soi, parce qu'on est tous d'accord sur que le régime devrait changer. Mais on n'est pas d'accord sur qu'est-ce qui va passer après. Et ça, moi, je trouve que c'est une bonne chose. On est d'accord, par exemple, plus ou moins aujourd'hui, dans la majorité des gens, que le prochain système, ça va être un système fédéraliste, parce qu'il y a des Kurdes, il y a des Baloutches, et il y a des minorités dans ce pays-là, et on ne peut pas oublier tous ces gens-là. Mais, comme j'ai dit, il y a un problème d'organisation. Et la gauche est complètement absente dans ce révolte en Iran, malgré que quand on regarde de révolte et des gens qui sont dans la rue, ils ont plus ou moins des slogans de gauche, mais la gauche aussi, c'est-à-dire le côté social, il y a la révolte, mais côté politique, il n'y a pas de traduction politique dans le parti politique de gauche.
Donc ça peut être un risque de... Un risque de ce qui pourrait se passer après, si le régime tombait
Bah, c'est un risque, oui, mais moi, je suis... je pense que... on voit que le droit iranien est fort à l'étranger, parce qu'ils ont une relation avec le gouvernement occidental, mais la gauche iranienne, c'est une gauche qui est fils aîné de stalinisme et de Russie, donc ils jouent encore... avec cette pensée de guerre froide, et ils n'ont pas compris qu'est-ce qui se passe dans leur société. Et ça, c'est dangereux. C'est-à-dire que, puis, un droite ou un social-démocrate peut gagner la révolution après. Mais la gauche radicale ou révolutionnaire est totalement absente, malheureusement.
D'accord, très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup d'être venu et de nous avoir parlé de la situation et de ton optimisme. Voilà.
Je vous en prie.
Merci.
Radio Canu 102.2,
la plus rebelle des radios.
Canu Info.
Alors, on en profite pour faire un petit point sur ce qui se passe au Rojava, puisque du coup, ça, c'est quelque chose d'assez logique, puisque l'Iran aussi bombarde une partie du Kurdistan irakien. La Turquie, elle, bombarde aussi une autre partie du Kurdistan irakien, mais elle a commencé depuis samedi minuit a bombardé le Rojava, c'est-à-dire le nord-est de la Syrie. Du coup, son but, c'est de détruire les acquis de la révolution, notamment en matière de féminisme, d'organisation horizontale, et de massacrer tous les gens qui pourraient s'opposer à la colonisation de la Turquie par rapport à cette partie de la Syrie. Oui, tu voulais, Baman ?
Oui, on voit à quel point les gouvernements de région, ils sont tous d'accord à attaquer les Kurdes chaque fois qu'il y a une révolte dans la région. C'est-à-dire qu'ils peurent de cet slogan qui vient de Kurdistan, qui envahit l'Iran. Et moi, je pense que, parce que c'est le même jour que la Turquie et l'Iran attaquaient chacun de son côté les Kurdes. Donc, qui soutient l'oppresseur ? Celui qui est oppresseur. Qui soutient la liberté ? Celui qui pense de la liberté. Et on voit qui pense comment. Donc quand on voit les attaques de deux gouvernements, ils ont de même jour et contre même peuple.
Ouais, donc tu penses qu'ils auraient... Peut-être que tu sous-entends qu'ils auraient pu se coordonner.
Moi, je pense qu'ils sont en coordination parfaite.
D'accord. Et ben, du coup, effectivement, depuis samedi dernier minuit, l'armée turque a commencé à bombarder largement toute la zone du Rojava et a continué hier. Prenant le prétexte fallacieux, donc on en a parlé la semaine dernière, d'une bombe soi-disant posée par des activistes syriens, la Turquie donc essaye bien d'envahir toute la région et de massacrer les révolutionnaires kurdes et les autres peuples qui ont adopté toutes ces nouvelles formes d'organisation de la société. Donc là, on va écouter un petit son qui explique un petit peu la situation avec un peu plus de détails. Si le petit son arrive à se caler...
Il faut que tu appuies sur play.
Il faut.
Il marche plus l'autostart.
Au nom de la coordination Rise Up for Rojava, à toutes les amies et à tous les amis du Rojava, à la presse et au public. Dans la nuit du 19 au 20 novembre, l'État fasciste turc a lancé une nouvelle opération contre les terres libérées du Rojava, du nord-est de la Syrie et du sud du Kurdistan. Avec une opération aérienne massive, les villes et régions de Kobané, Derik, Sherba, Minbij, Zirgan, Dirbesi et Tel Temir ont été bombardés. Au sud du Kurdistan, Gareh et Kendil, dans les zones de défense de Media, ont également été bombardés par les avions de guerre turcs. Les attaques se poursuivent actuellement et le chef fasciste du régime turc, Erdogan, menace la région de destruction, d'extinction et de meurtre pour pouvoir rester au pouvoir et remporter les prochaines élections en Turquie. Depuis le début de l'année, le Rojava est confronté à des attaques continuelles alors qu'au même moment, dans les montagnes du sud du Kurdistan, l'armée turque utilise quotidiennement des gaz chimiques contre la résistance de la guérilla. « We see your crimes », nous voyons vos crimes, et nous ne restons pas silencieux. Les dernières attaques montrent une autre escalade sur le terrain et doivent être comprises comme une préparation à une nouvelle invasion. Depuis plus de 3 ans maintenant, le Rojava est attaqué quotidiennement. Frappes de drones et d'avions, tirs d'artillerie, offensives locales et régionales de l'ANS, armée nationale syrienne, soutenue par la Turquie, coupures d'eau, destruction d'infrastructures, embargo et isolement politique. L'année 2022 a tout particulièrement été caractérisée par cela. Les puissances hégémoniques internationales, telles que les États-Unis et la Russie, ont toutes deux donné le feu vert à la Turquie pour faire ce qu'elle veut. Le Rojava est en guerre. Le Rojava est attaqué. Nous constatons également qu'au moment même où le Rojava et le Sud-Kurdistan sont massivement bombardés, au Kurdistan oriental, Rojelat, et en Iran, la répression contre les personnes qui luttent dans les rues a atteint un nouveau stade. Et tout comme la Turquie, l'Iran bombarde lui aussi le Kurdistan. Cette situation montre, une fois de plus, la réalité du peuple kurde et ce à quoi il est confronté lorsqu'il demande une vie autodéterminée. Tout le monde doit bien comprendre que celles et ceux qui ont donné vie au slogan « Jin, Jiyan, Azadi », ce sont les femmes du Rojava, ce sont les membres de la guérilla dans les montagnes du Kurdistan, c'est le peuple du Kurdistan. La lutte des gens dans les rues du Rojelat et de l'Iran, la résistance de la guérilla et la lutte du peuple au Rojava sont une et ne peuvent être comprises séparément les unes des autres. Pour cette raison, nous appelons tout le monde à se mobiliser immédiatement et à descendre dans la rue. Où que vous soyez dans le monde, montrez votre soutien au peuple du Rojava. Bloquez, dérangez, occupez, organisez des manifestations, des protestations et soyez créatifs. Rejoignez les prochaines journées d'action du 30 novembre au 3 décembre. We see your crimes. Nous voyons vos crimes.
Nous vous envoyons... Voilà, et du coup, on va maintenant enchaîner sur un autre son qui est le témoignage d'une Française internationaliste qui détaille la situation des bombardements, et cet enregistrement a été pris le lendemain des premiers bombardements, c'est-à-dire dimanche dernier. Est-ce que tu peux encore appuyer sur play ?
Alors peut-être pas, parce que le truc dit « error », mais je vais essayer de le lancer.
D'accord, bah si tu le lances pas, je vais... Du coup, sinon, ce que je peux dire, c'est qu'il y a effectivement la campagne.
Non, ça ressemble à Hyper
pas. Ça marche pas. Bon, bah, c'est pas grave. En fait, c'était. Du coup, ce que voulait dire cette camarade internationaliste qui était sur place.
On va peut-être avoir le son quand même.
On va peut-être avoir le son quand même.
Attention.
Hop. On tente une expérience.
Ouais, expérience
radio. À tous qui écoutent ce message, c'est pour vous tenir au courant des dernières informations concernant les attaques qui se passent actuellement au Rojava. Alors, comme vous l'avez peut-être vu, les bombardements ont commencé hier soir vers minuit dans diverses villes du Rojava, comme par exemple Kobané, Derik Telbespi et d'autres villes à la frontière turco-syrienne. À Kobané, il y a eu 3 blessés et l'hôpital du Corona a été complètement détruit. À Zirkan, qui est une autre ville, il y a des silos de blé qui ont été aussi ciblés et les 2 gardes qui les protégeaient sont décédés. À Derik, ils ont bombardé une usine électrique. Il y a un garde qui est également mort et ensuite les habitants autour sont partis l'aider. Et en fait, quand ils sont allés l'aider, ils se sont fait de nouveau bombarder. Donc, il y a 11 morts, cette fois-ci, dont un journaliste et 6 blessés. Aussi, on voulait vous dire que nous, on voit vos mobilisations depuis ici et quand vous rassemblez les manifestations. Et ça nous fait trop chaud au cœur. Faut continuer à agir de toutes les manières différentes et possibles contre l'État turc le plus possible. On voulait aussi vous rappeler que du 30 au 3, il y a une mobilisation contre les armes chimiques. Et on vous salue. Serkeftin, Biji Berkhoazan Arujavu. Salut à toutes et à tous qui écoutent ce message.
Dans cette. C'est bon, on m'entend ?
Oui, c'est bon.
Et ben, oui, du coup, dans cette mobilisation We See Your Crimes, il y a. Du coup, il y a un truc prévu à Lyon, si ça peut intéresser des gens. C'est que il y a des affiches qui ont été imprimées sur contre l'utilisation des armes chimiques et le 30 novembre, qui est la journée internationale des victimes des armes chimiques, on propose aux gens de les mettre, de les accrocher à leurs fenêtres et ces affiches seront disponibles à partir de demain ou après-demain au Centre culturel Mésopotamie, 11 rue Mazagran dans le 7e. Donc les gens pourront y aller pour prendre ces affiches là et les accrocher à leurs fenêtres. Voilà.
Et du coup le 30 c'est mercredi prochain.
Et y a des manifs de prévus à Lyon ou pour l'instant pas, ou on ne sait pas encore.
Pour l'instant pas, du coup il y a une manif spontanée, c'est-à-dire non autorisée dimanche à 15h à Bellecour.
Il y a eu
dimanche dernier, puisque les attaques avaient eu lieu samedi à minuit, dimanche, voilà, donc comme ça, ça a eu lieu dans énormément de villes de France, d'Europe et du monde d'ailleurs. Et du coup là, il y a cette campagne contre l'utilisation d'armes chimiques qui continue en fait, qui était prévue avant ça. Et pour l'instant, ce qui est prévu là, je sais pas encore. Il y a pas de, j'ai pas d'infos.
Canu Info.
Radio Canine.
Des rues de Lyon.
Excuse-moi, j'ai dit Canine, mais bon, on va dire Radio Canu.
Aux pistes de lointaines contrées. Suivez la reporter des Canu Info du mercredi dans le Camion Info.
Ok, il y a eu un petit bug.
Alors, début novembre, une journée de grève générale a rassemblé des milliers de personnes à Athènes et dans une soixantaine d'autres villes grecques pour protester contre l'inflation et pour la hausse des salaires. Le prix de l'électricité a par exemple triplé en un an. Voici, si on y arrive, l'interview d'un militant anarchiste à Patras pour nous présenter la situation. Ah ouais, on devrait y arriver, mais dans...
I live in Patras for a lot of years now, participate in the local movement, and through the years we have had a lot of things going on, like having Parartima squad, which is the main...
Je vis à Patras depuis une paire d'années maintenant et je fais partie de plusieurs différents mouvements locaux. On a par exemple le squat Paratima, le lieu principal des luttes ici. C'est un lieu historique où les étudiants se sont révoltés contre la dictature en 1963.
It used to have a lot of big industries and some of them closed. They were very, very big. We say now 20, 30 years ago, very, very big strikes and fighting and stuff like that. And in general, it's a progressive city. It's
Patras, c'était une ville assez industrielle avec beaucoup d'usines, dont une partie a fermé, ce qui a occasionné d'importantes grèves il y a 20 ou 30 ans. Traditionnellement, c'est une ville assez progressiste, avec un maire communiste qui reste très populaire. Beaucoup de gens ne se sont pas remis de cette période des fermetures d'industrie. Ils ont perdu leur travail et ils tentent de survivre avec des petits boulots par-ci par-là. En général, tout l'ouest de la Grèce a un gros problème de chômage et un gros problème de pauvreté.
Greece has a very big problem with unemployment and poverty. To begin with, we as anarchists and anti-authoritarians, we don't analyze.
À propos de l'augmentation du coût de la vie, en tant qu'anarchiste et anti-autoritaire, nous n'analysons pas la situation de crise comme un phénomène ponctuel, mais comme une continuité, parce que c'est profondément lié au système capitaliste. Mais si on veut marquer un commencement de la crise actuelle, c'est en 2008, avec la crise financière mondiale.
In history, an initial time where the crisis began in 2008, which was a worldwide crisis, as we all know, things have been getting worse and worse in everyday life.
Depuis, en Grèce, les choses ont été de pire en pire. Les retraites, les salaires, les droits des travailleurs et travailleuses, les conditions de travail, le système de santé.
Health system prices in Greece were high, as high they can get. For example, we had the highest prices, not in analogy.
Depuis, le coût de la vie est extrêmement élevé en Grèce. Par exemple, nous avons les prix les plus élevés d'Europe, pas en proportion avec les salaires, mais bien en valeur absolue, et pour presque tous les besoins de base. En sachant que le salaire minimum est de 600 euros.
Some of the highest prices.
On a les prix les plus élevés pour Internet, pour le téléphone, pour l'électricité, pour certains des produits de base en supermarché. Et c'est une situation qui existe depuis au moins 10 ou 20 ans.
We saw an increase, but for our analysis, of course, war has.
Bien sûr, on a vu quand même les choses empirer ces derniers mois. On ne dit pas que la guerre en Ukraine n'y est pour rien et qu'elle n'a aucun impact, mais ce n'est pas la raison principale pour laquelle les prix augmentent.
You know, last winter, before the war. Because you asked me, last winter we had the biggest amount of people dead from domestic fires during the winter. I mean domestic fires.
L'hiver dernier, par exemple, avant la guerre, il y a eu en Grèce un nombre record de personnes décédées des suites de feux domestiques. Ce sont principalement des personnes vieilles, pauvres, migrantes ou des groupes marginalisés, des gens qui n'avaient pas d'argent pour acheter du gaz ou de l'électricité pour se chauffer et qui ont fait des feux avec du bois récupéré dans les poubelles. Pendant une autre période de crise importante, où il faisait très froid, en 2011-2012, on pouvait voir un brouillard toxique au-dessus des grandes villes, parce que les gens brûlaient ce qu'ils trouvaient pour avoir chaud. L'hiver dernier, il n'y a pas eu ces nuages toxiques, mais tout de même beaucoup de feux, et je crois qu'il y a eu environ 35 personnes qui en sont mortes. L'hiver prochain sera encore pire, je pense. Le récit du gouvernement, c'est que l'on doit se préparer au même hiver qu'en 1942, qui est un hiver historique que l'on appelle le long hiver de 1942, et au cours duquel des milliers de personnes sont mortes, surtout à Athènes, pendant l'occupation nazie.
The long winter of 1942, that thousands of people died mainly in Athens. It was the Nazi occupation. What they do is make coupons or special small benefits. But in every time they do this, there's a trick.
Ce qu'ils font pour faire semblant d'éviter ça, c'est de mettre en place des coupons, des garanties de régulation des bénéfices.
So important then that they take measures to stop everything.
Mais à chaque fois qu'ils font cela, on sait que c'est une illusion. Ils racontent qu'ils négocient avec les supermarchés, ce qui leur permet de se présenter comme des sauveurs qui prennent des mesures pour stopper la situation. Ils ont créé un label avec les produits du panier moyen de la ménagère, comme ils appellent ça. Ce label montre que ces produits sont soumis à cet accord entre l'État et les grandes entreprises de distribution, et donc que leur coût est moins élevé. Mais c'est faux parce qu'avant cet accord, les prix avaient tellement augmenté que lorsque les prix de certains produits ont diminué, ils apparaissent moins chers, mais ils sont tout de même plus chers qu'avant.
And it's higher than before. Everyone is very angry. I think everyone knows what's going on.
But there's no true. Tout le monde est très en colère, tout le monde comprend ce qui se passe, right, mais il n'y a pas de vraie organisation de la base. On essaie de faire
culture, you know, we have a more general culture.
Il n'y a pas eu en Grèce ces mouvements de protestation contre le hausse du coût de la vie comme on a pu voir ailleurs en Europe ces derniers mois. On n'a pas ce genre de culture, plutôt une culture de lutte plus globale dans laquelle cette question apparaît toujours. Il y a eu un grand moment de grève et de lutte sociale autour de 2012 pendant une autre grande vague de crise où des assemblées publiques se sont créées un peu partout en Grèce dans lesquelles la pauvreté et le coût de la vie avaient une place importante. Les gens essayaient de mettre en place des actions de solidarité pour s'aider concrètement, pour se nourrir ou pour l'électricité.
Solidarity networks and groups and stuff like that for food, for electricity. Yesterday was a very big protest in Athens that the police went and broke inside the woman's house.
Lundi dernier à Athènes, il y a eu une grande mobilisation parce que la police a défoncé la porte de l'appartement d'une vieille femme pour tenter de l'expulser à 5 heures du matin. Elle avait des dettes envers sa banque, ce qui est aussi un vrai problème en Grèce, les prêts irremboursables et les gens qui contractent des prêts pour survivre. Ils ont essayé de l'expulser, mais il y a eu un fort mouvement de soutien immédiat et une manif un peu plus tard dans la journée avec des milliers de personnes. Donc on verra bien ce qu'il se passe dans les jours à venir.
They tried to evict her for some time, but people gathered, and then in the evening it was a very big protest with thousands of people. So we will see what's going on. One slogan that we use is that all we have is each other.
L'un des slogans qu'on utilise, c'est tout ce que l'on possède, ce sont les uns les autres. Et c'est très vrai en Grèce, où on doit compter les uns sur les autres contre la police, contre les violences liées aux gens, contre le coût de la vie et contre cette pauvreté dégueulasse.
Radio
Canine.
Des rues de Lyon.
Excuse-moi, j'ai dit Canine, mais bon. Canu,
aux pistes de... Allez, j'attaque la suite. Aujourd'hui, Libé fête à sa manière l'arrivée du nouveau patron d'EDF avec un dossier sur lui et sur les différents problèmes auxquels il va devoir faire face. En particulier, mais pas seulement, les projets irrationnels les projets irrationnels de Macron en matière de nucléaire que ce nouveau PDG doit mettre en œuvre. Mais pas que ça. Puisque ce bonhomme va déjà devoir essayer de... Alors, il va pas devoir essayer, en fait, lui, il va devoir arriver, parce qu'on est dans un truc très macroniste. Il sera au travail dès la première demi-heure, il n'a pas droit à l'erreur, toutes ces choses-là. Donc, il va absolument réussir à fournir assez d'électricité au pays pendant l'hiver. Et ça, bon, c'est vrai que c'est déjà quand même... Ça ne va pas être facile. Alors depuis le début de l'an, on sait qu'on a ce problème de... Il y a une grosse part du parc nucléaire français qui est à l'arrêt pour toutes sortes d'histoires. Et que du coup, comme la France a entièrement, enfin pas entièrement, mais très, très majoritairement misé sur le nucléaire depuis 40 ans déjà, et ben ça fait que une fois que le gaz russe, le bordel, la capacité de la France de créer de l'électricité risque d'être à un moment ou un autre de l'hiver moins forte que la demande d'électricité. Donc depuis le début de l'automne, quelques-uns de ces réacteurs qui étaient à l'arrêt depuis cet été ont été remis en route, mais finalement pas tant que ça. Et pour les autres, on prévoit encore plus de retard que ce qui, enfin toujours un peu plus de retard. Alors, comme dit Libé, ça va devenir un problème en janvier ou en février, ouvrez les guillemets, si les températures deviennent hivernales. Alors bon, c'est vrai qu'on est au 21e siècle, on est les années 2020, aussi bien il pourrait faire 40 degrés en janvier ou février, mais enfin, ça serait pas non plus méga étonnant que les températures soient une fois de temps en temps un petit peu hivernales en janvier ou en février. Donc, remettre en route les centrales à l'arrêt, ça suppose de terminer les opérations de maintenance normales. Bon, ça encore, voilà, c'est en cours, ça le fait. Ça suppose aussi de régler les problèmes de corrosion sous contrainte. Ça, c'est déjà un peu plus compliqué, parce qu'on sait que c'est des problèmes qui sont survenus sans qu'on ne soit jusqu'à maintenant complètement arrivé à les comprendre. Mais pendant qu'on répare de toute façon des centrales, les autres centrales qui fonctionnent font des merdes de leur côté. Et une des centrales bien balèze, le réacteur de Civo 1, qui est une des un des gros réacteurs qu'on a, vient de subir, on en a parlé la semaine dernière, une avarie avec fuite d'eau radioactive, ce qui va aussi mettre un temps à réparer, voilà, qui ne nous arrange pas. Après, il faut encore s'occuper des toujours dans les chantiers du bonhomme, il va encore devoir s'occuper des problèmes de thunes de EDF. Là, on va pas s'attarder, mais enfin, c'est un gros chantier. Et pour s'y attaquer, c'est vrai que commencer avec des projets dingues de construction de nouveaux réacteurs à l'appel, c'est un moyen un peu étonnant de régler les problèmes de thunes, comme l'idée de prolonger les centrales nucléaires existantes, alors que, a priori, plus elles sont vieilles et plus ça coûte de fric pour continuer à produire de l'électricité avec les centrales, sans risquer complètement d'exploser à chaque seconde. C'est ça qui coûte du fric. Mais c'est pas tout. Le plus gros problème de ce nouveau super PDG, l'homme providentiel dégoté par le président Macron himself, c'est bien de construire les nouveaux EPR promis par Macron il y a bientôt un an, et qui sont, à son avis, celui du président de la République, la meilleure solution pour faire face au dérèglement climatique. Alors bon, rappelons rapidement que même si ça marchait, même si on avait réglé les deux problèmes majeurs du nucléaire, c'est-à-dire le problème des déchets et le problème des risques d'accident, et même si les délais de construction étaient tenus, ça resterait une solution de merde, puisque les premiers réacteurs sont prévus pour pouvoir commencer à produire en 2035, c'est-à-dire dans plus de 10 ans, alors que tous les climatologues se tuent à expliquer qu'il faut qu'on ait finalisé les énormes changements avant 2030. Donc de toute façon, c'est décalé. Mais c'est là qu'on commence à rigoler. Libé a trouvé une source anonyme à l'IRSN qui explique que les dossiers présentés par EDF pour ces nouveaux EPR, donc les EPR 2, alors c'est ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour l'instant, à Flamanville, le machin qui ne fonctionne toujours pas, qui était prévu pour commencer à fonctionner, il me semble, en 2012, quelque chose comme ça, ce machin, c'est l'EPR de Flamanville. C'était un EPR 1, c'était la première génération, et c'est pour ça que EDF s'est planté, mais alors tellement lamentablement. On rappelle hein, des coûts qui ont été pour l'instant multipliés par 4 et qui ne cessent de grandir. Le machin devait être mis en route en 2012 ou 2013, il est toujours pas en route et c'est pas pour demain.
Du coup, pas étonnant qu'ils veulent en faire une V2, quoi.
Alors c'est ça, alors ils veulent faire une V2. Et ils veulent faire une V2 en faisant bien attention cette fois-ci à ne pas se planter comme pour la V1. Et un de leurs trucs pour ne pas se planter, c'est que cette fois-ci, ils voudraient bien avoir à peu près terminé les plans avant de commencer le chantier. Ce qu'ils n'avaient pas fait pour la V1.
Normal, attends.
Oui, je sais. Ah ouais. Alors l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, recommande qu'à peu près 65% des études détaillées soient déjà disponibles avant ce qu'ils appellent le premier béton, le moment où on commence vraiment les travaux. Bon là, EDF, ils ont fait, nous on va être méga sérieux ce coup-ci, et cette fois-ci, on va, eux, ils veulent avoir 100% des plans et des études et tout ça qui sont prêtes pour les infrastructures du génie civil et 70% pour le reste du projet. Ils se mettent carrément au-dessus des normes internationales. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, c'est très 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 pressé. Puisque pour couler le premier béton en 2027, leur centrale EPR2 sont en réalité pas encore complètement inventées. Et là, EDF a eu une sorte de tactique qui a été de dire « Non, mais en fait, on a déjà fait une. » Enfin, ils ont déjà commencé une. Donc on n'a qu'à faire un peu pareil, puis on améliore un ou deux trucs. Mais c'est là que l'IRSN, l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, qui cette fois-ci est un truc français, et qui est, alors l'IB dit plusieurs fois qu'il y a intransigeant ou je sais pas quoi. Bon, ils sont intransigeants vite fait, parce que par exemple pour celui de Flamanville, c'est eux qui ont autorisé à avoir une cuve faite dans un acier tout pourri, où l'alliage, il y a trop de carbone dans l'alliage, résultat, la cuve, si on la secoue un peu trop, elle risque de casser. Mais l'IRSN avait dit, bon, ben d'accord, on peut la garder quand même, mais il faudra changer le couvercle. Disons moyen intransigeant, mais quand même, ils peuvent pas non plus accepter n'importe quoi. Or, EDF passe son temps à essayer de leur fourguer n'importe quoi. Là, entre autres, alors EDF avait zappé un gros problème qui affecte le circuit primaire du puissant réacteur. Les vibrations trop élevées qui fragilisent la ligne d'expansion du pressuriseur, un équipement essentiel qui, s'il venait à rompre, pourrait provoquer un accident grave. Donc voilà, le machin, il bouge bien trop vite, bien trop fort, c'est dangereux. Et du coup, la solution pour limiter les vibrations sur l'EPR de Flamanville...
Sur ma machine à laver, j'ai mis un petit truc, un tapis sous la machine.
C'est exactement ça.
Oh putain, mais ils sont malins.
C'est de poser un amortisseur. Donc voilà, malin comme tout. Mais alors l'IRSN a dit, ok, l'amortisseur, ça marche pour Flamanville. Non mais vous vous rendez compte, je veux dire, c'est eux qui sont censés être intransigeants, quoi. Mais bon, par contre, pour les EPR2, non mais là, il va vraiment falloir arrêter les conneries.
Tu vois, ils sont intransigeants.
Ouais, bah vite fait, ouais. Disons, pour le PR2, ils ont l'air d'avoir retrouvé un petit peu d'intransigeance en disant, bon là, le machin, on l'a pas encore commencé. Alors si déjà, on part avec des plans de merde, ça va quand même, ça va quand même être la merde, quoi. Ouais, d'accord, je me dépêche. Du coup, voilà. Du coup, ils ont dit non, bah ça, par exemple, vous allez tout refaire les plans. Le problème, c'est que les autres, ils n'ont pas encore la moindre idée de par où ils vont commencer pour refaire les plans. Ce qui fait que les promesses de Macron, qui sont des promesses datées, je veux dire, avec des échéances, en fait, ça se trouve, le début des travaux sera déjà en retard. Par rapport à. Voilà, je veux dire, c'est vraiment là qu'on en est, quoi. Alors, attendez, ouais, non, bah, alors, je vais essayer de faire bien plus vite, les machins. Tuiles supplémentaires. En juillet dernier, l'IRSN a rendu un avis sévère concernant cette fois la cuve de l'EPR de Flamanville. Ah non, bah, ils ont rendu un avis sévère, mais quand même qu'ils l'autorisent à utiliser. Hein. Qui aura des répercussions directes sur celle de l'EPR2, puisque c'est exactement la même cuve qui est prévue. À la lumière des problèmes rencontrés sur l'un des deux EPR chinois aussi construits par EDF à Taïsan, et donc les EPR chinois ont aussi dû être arrêtés pendant un an à la suite de ruptures de plusieurs gaines qui contiennent du combustible radioactif, blabla. Donc voilà, ils font, enfin, ça merde partout, quoi. Ils sont pas capables d'en faire fonctionner une. L'Institut, donc l'IRSN, a en effet demandé à l'électricien de modifier les internes chargés d'orienter le flux de l'eau au fond de la cuve, là, le sens dans lequel ça tourne l'eau, blabla. Bon, bref, un machin qui fait que ça aurait été un peu moins dangereux. Alors là, EDF a dit quoi ? Elle a dit quoi ? Oh là là ! Bon, mais alors pour Flamanville, non, mais alors ce qu'on aurait qu'à faire, on aurait qu'à dire qu'on peut la faire fonctionner pendant 10 ans avant de modifier ce machin. Et là, l'IRSN, pour l'instant, est en train d'étudier la demande. On avait dit quoi ? On avait dit intransigeant ? Bah, dis donc. Mais par contre, l'IRSN a dit non, mais par contre, pour le PR2, il faut arrêter les conneries, là. Et bim, EDF va encore être dans la merde, parce qu'il faut encore qu'ils refassent leur plan. Bon, il y en a comme ça, des histoires comme ça. Il y a des histoires de l'eau qui sert à refroidir. Alors, il faut qu'elle ait un pH élevé, mais il faut aussi qu'on ait enlevé une partie de l'oxygène de l'eau, parce qu'autrement, bah autrement, ça rouille encore plus que ce que ça rouille déjà.
Ouais, et puis il faut aussi qu'elle soit froide pour qu'elle puisse refroidir.
Alors par ailleurs, on a aussi ce problème-là. Du coup, pour l'instant, ils vont commencer par construire des EPR au bord de la mer en se disant là au moins il y a beaucoup d'eau, ça devrait pas poser trop de problèmes. En fait, ils ont quand même des problèmes de pompe. Alors du coup, et comme par ailleurs ils veulent construire d'autres EPR, ceux-là bien plus près d'ici, Bugey ou Tricastin peut-être. Alors là, c'est encore bien plus compliqué parce que bien sûr, comme on sait pas trop ce que ça va donner la sécheresse, le niveau des fleuves dans les années qui viennent, bah c'est vrai que là, ils ont pas la moindre idée de comment ils vont faire. Alors à chaque fois, ils disent non mais autrement, on a qu'à faire comme si tout allait se passer bien. Là, il y a un petit intertitre de l'article de Libé qui s'appelle prendre le risque. Bon voilà, d'accord, je me dépêche. Tout ça, qu'est-ce qui se passe ? C'est que alors, Macron avait promis un débat public, mais en fait, il est obligé de commencer les chantiers avant pour tenir ses délais. Alors bon, il y a un débat public quand même, parce que c'est aussi un truc qui est obligatoire, sauf qu'il ne peut pas du tout prendre le risque que le débat public tourne à son désavantage. Résultat, les salariés d'EDF sont massivement mobilisés pour aller au débat public, pas dire ce qu'ils pensent, on leur fait des fiches à l'avance, pour qu'ils puissent maîtriser l'argumentaire parfaitement. C'est-à-dire j'imagine qu'après le jeu, ça va essayer de les faire sortir un peu de leur fiche pour voir s'ils ont quelque chose à dire à côté.
Bah, de toute façon, ils ont quand même planifié un truc sur les 10 années, puisque le nucléaire, ça se planifie à très très long terme. Faire un débat public, c'est quand même vraiment du foutage de gueule. Là.
Ah bah de toute façon, oui, bien sûr. Et ce débat public est organisé par ce truc qui s'appelle la Commission nationale du débat public, qui est un truc qui se vante de changer l'opposant en interlocuteur, de noyer toute contestation dans une sorte de gloubi-boulga démocratique. Voilà. Qu'est-ce que je voulais finir par dire ? Voilà, homme providentiel. Ah oui, c'est ça. C'est que toutes ces solutions de Macron qui dit non, mais là, j'ai trouvé le bonhomme, et lui, c'est un battant, et lui, il a une mission impossible, mais vous allez voir, il va y arriver. Ben, moi, je pourrais quand même un peu parier ma culotte que le bonhomme aura démissionné la queue entre les jambes d'ici, allez, disons, la fin de l'hiver. Ben, allez, la fin du printemps.
Et pas de générique, mais on enchaîne avec les émeutes en Chine.
Ok, non mais d'accord, tu m'as coupé. J'allais dire, la prochaine fois, je vous raconterai comment EDF se fait piquer des thunes. Non mais c'est long, mais comment EDF se fait piquer des thunes par le marché privé grâce à des arrangements sur le marché de l'électricité, vous verrez, c'est vachement marrant. Mais donc, un rapide point sur la réforme du chômage, j'ai déjà fait. La gigantesque usine Foxconn de Zhengzhou pardon pour mon accent chinois, qui compte quand même plus de 200 000 ouvriers, est chargée de fabriquer les iPhones. Elle produit 70% des smartphones d'Apple et la plupart des smartphones dernière génération. Elle est sous lockdown depuis la mi-octobre à cause du Covid, et face à des restrictions de plus en plus dures, enfin un lockdown de plus en plus dur, les travailleurs de Zhengzhou ont choisi de fuir l'usine. Donc on a vu à fin octobre des gens qui passaient les grilles de l'usine en se jetant par-dessus pour essayer de s'enfuir. Et là, ce mercredi 23 novembre 2022, il y a eu de violentes manifestations qui ont lieu dans l'usine de Foxconn. La nuit qui précédait, les cabines de test Covid et des voitures ont été brûlées par les ouvriers, ainsi qu'une partie de l'infrastructure de l'usine, dont notamment les portails qui ont été aussi incendiés. Sur plusieurs vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux chinois, on voit des agents de sécurité de Foxconn en train de malmener des ouvriers. Avec en arrière-plan un haut-parleur qu'on entend qui dit « Tous les travailleurs, retournez s'il vous plaît à vos logements, ne vous associez pas aux éléments minoritaires illégaux. » Et donc c'est dans ce contexte qu'il y a eu une émeute qui a éclaté cet après-midi. D'après un communiqué publié par Foxconn, les manifestants se sont plaints des salaires, des conditions de travail et de la nourriture servie à l'usine.
Eh ben, c'est 20h. C'est la fin de ce Canu Info et voilà, et on laisse la place à Idée Noire. Merci de nous avoir écoutés, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.